France Info.
France Info.
Bonjour Sorge Chalandon.
Bonjour.
Vous avez couvert des centaines, peut-être des milliers d'événements d'actualité, mais quand je vous ai demandé d'en choisir un seul pour Mémoire Vive ce dimanche, vous avez tout de suite pensé au procès de Klaus Barbie, le criminel nazi, l'ancien chef de la Gestapo de Lyon, jugé et condamné à perpétuité en 1987. Ce procès, à l'époque, Sorge Chalandon, vous l'aviez suivi pour Libération. Votre première image de Klaus Barbie, quand vous y repensez aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ?
La première image, le premier mot de mon article, c'était « il entre », point. Et l'image, c'est un visage d'oiseau, blafard, avec une petite tête qui sort d'un col trop grand, un costume trop grand aussi, noir, qui n'est pas à sa taille. Et un homme traqué qui tout de suite nous dit « je m'appelle Klaus Altmann ». Donc pendant tout ce procès, il faut le rappeler, pendant tout ce procès, cet homme dans ce box-là, qui a été condamné à la perpétuité, nous a dit « je ne suis pas Klaus Barbie ».
Pourquoi ?
Parce qu'il n'assumait pas, parce qu'il ne voulait pas, parce que c'était un système de défense. Mais en tout cas, nous avons passé des jours et des jours en face d'un homme qui disait « mais j'entends ce que vous dites, je comprends ce que vous dites ». Je comprends les accusations qui sont portées contre cet homme, mais je m'appelle Klaus Altmann. L'image qu'il s'était donnée, en tout cas, c'était un homme qui n'avait rien à faire dans ce box-là parce qu'il n'était pas le bon personnage.
Il faut vraiment rappeler, Sorge Chalandon, pour ceux qui ne s'en souviennent pas ou ceux qui sont trop jeunes, que c'était un procès exceptionnel, un long procès et un procès exceptionnel à tout point de vue.
Alors c'est exceptionnel pour plusieurs raisons et c'est ce qui a fait pour moi le grand procès. D'abord parce que c'est un procès juste. C'est un procès dont la France est ressortie grandie. Ce n'était pas ces petits procès de l'épuration vite fait avec une balle dans la tête. C'est un procès de justice. C'est-à-dire qu'il y a des gens, même parmi les avocats des parties civiles, qui disaient c'est un procès pour mémoire. Mais ce n'était pas ça. C'était on jugeait un homme pour trois faits particuliers. La rafle de la rue Sainte-Catherine à Lyon, 86 personnes arrêtées, 78 déportées, personne n'est rentré. La rafle de 44 enfants d'Isieux dans l'Ain, tous morts en 1944, et le départ du train 1466 avec 600 personnes à bord pour les camps de concentration. Trois faits. C'est-à-dire qu'il a été jugé comme n'importe quelle personne est jugée pour trois crimes. Ces trois crimes contre l'humanité-là étaient imputés à Klaus Barbie. Même s'il, en fait, il n'avait pas de sang sur les mains, il avait de l'encre sur les mains. Mais on a jugé cet homme-là pour trois faits. La première chose fondamentale pour moi, c'est que c'était un procès juste d'un homme qui a été jugé pour ce qu'il avait fait et non pas pour le crime mondial auquel il avait participé, ce qui lui était reproché en propre. La deuxième chose bouleversante, c'est que, et ça m'a accompagné pendant les 7 semaines du procès, c'est que les gens qui sont venus nous parler, c'était la dernière fois qu'ils le feraient.
De quel témoignage justement vous souvenez-vous aujourd'hui, Sorge Chalandon ?
Écoutez, un témoignage qui pour moi est... Enfin, je vais vous dire, c'est très bête, mais on a beaucoup pleuré pendant ce procès. On pleurait. J'ai vu des gendarmes qui se retournaient parce qu'ils pleuraient. Je n'ai jamais vu ça dans aucun procès. Aucun. Il y en a un qui m'a touché, mais tous m'ont touché évidemment, mais Fortuné Benguigui, une petite dame juive qui a un fils. Et Fortuné Benguigui, son fils, elle l'envoie à Isieux, justement, dans la petite maison, dans l'Ain, où cette colonie de vacances où 44 enfants pensaient qu'ils étaient totalement cachés à tout jamais de la barbarie. Et elle lui fait un petit pull. Elle lui tricote un pull. Elle le tricote avec ce qu'elle trouve comme laine, des petits bouts de laine épars, ici et là. Elle lui met son petit pull, elle l'embrasse et il part à Isieux. Et elle est déportée. Elle part à Auschwitz. Et tout ce qui la tient en vie, c'est que son fils, lui, s'en est sorti. Et un jour, dans le camp, elle voit un enfant de capot, donc de surveillant de camp avec le pull de son fils. Et elle comprend. Je crois que c'était... Voilà. Et l'histoire de ce petit pull, brusquement, voyant ce pull dans ce camp, elle a compris que son fils était passé par là. Et des mots comme ça, des histoires comme ça, il y en a eu des dizaines et des dizaines. On nous a expliqué, vous savez, on parle souvent des trains plombés, des trains qui partaient vers la mort. Mais qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de ces trains ? Là, on nous en a parlé enfin ce qui se passait. Il y avait de l'humain à l'intérieur des trains, il y avait de la barbarie, il y avait de l'inhumanité. Toutes ces choses qui sont dans les livres, qui sont dans les films, mais des voix humaines, venez nous les dire pour la dernière fois. Et ce qui m'a aussi touché infiniment, c'est que Klaus Barbie, très vite, donc, qui se faisait appeler Klaus Altman, il a quitté le procès. Il en avait le droit, c'était absolument son droit absolu. Donc il a quitté le procès et des centaines de journalistes ont quitté le procès avec lui en disant « ce procès n'a plus aucun intérêt ». Heureusement, les journalistes sont restés. Et moi, je suis persuadé que s'il était resté pendant tout le procès, il est revenu deux ou trois fois, parce qu'il fallait être confronté à quelques témoins directs. Mais en tout cas, s'il était resté pendant tout le procès, je pense que tous ces témoins-là, qui étaient tellement fragiles, tellement âgés, ils n'auraient pas parlé comme ils ont parlé. C'est-à-dire qu'ils auraient eu cet homme en face et ça aurait été des cris, des invectives, des larmes, des pleurs. Là, l'homme n'était pas là. Le box était vide. Donc, ils se sont confiés à nous. Et donc, ils ont parlé sans pression, sans crainte, sans peur. Et ils ont parlé avec la voix et avec le cœur de ceux qui n'avaient plus peur de l'homme qui aurait pu être en face.
Est-ce que ce procès a changé profondément quelque chose en vous, Sorge Chalandon, au-delà de ce que vous nous racontez aujourd'hui?
Alors, moi, ce qui l'a changé, c'est étrange parce que le procureur Truche, qui a mené ce procès de main absolument de maître, il avait dit « personne n'est sorti du procès Barbie comme il y est entré ». Et moi, je suis sorti de ce procès avec une conviction absolue, c'est que nous le savions déjà. Mais en tout cas, nous en avons pris conscience, plus on parlait et plus les témoins parlaient, c'est qu'il y a deux personnes en nous tous. Il y a une victime et il y a un bourreau. Et les victimes qui sont venues là, il y en a qui nous ont dit « j'aurais pu être le bourreau ». Le problème, c'est que moi, j'ai combattu toute ma vie le Klaus Barbie qui était en moi et la personne qui est dans ce box-là n'a pas combattu la petite personne qui était en lui. Donc je suis sorti de ce procès avec, et je l'aurai toujours, la certitude qu'il faut combattre le bourreau qui est en nous.
Merci, Sorge Chalandon, pour cette mémoire vive et vive, ô combien, le procès de Klaus Barbie. Pour les auditeurs de France Info, pour vos lecteurs aussi, toujours à lire ou à relire Le Quatrième Mur, votre dernier ouvrage paru chez Grasset, qui a reçu le prix Goncourt des lycéens. Quant à cette mémoire vive, on peut la retrouver en podcast et en vidéo sur franceinfo.fr. Merci.
Merci à vous.